Radio Foot International. Spécial UEFA Euro 2024 avec Hugo Moissonnier.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Radio Foot de retour pour son service du soir en direct sur RFI. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. Une deuxième tournée de Radio Foot pour les braves que vous êtes, que nous sommes. Nous avons survécu aux purges du jour. L'Euro ne nous a pas vraiment gâtés ce lundi. Le choc France-Belgique n'a pas exactement tenu ses promesses. Cet après-midi, les Bleus sont passés par leur petite porte préférée, à savoir le CSC. Quant au Portugal, il est toujours coincé en huitième. Plutôt prolongation actuellement face à la Slovénie. Après un temps réglementaire inoubliable, 0-0, les visiteurs du soir dans le studio 41, ils sont la rare lumière d'un des rares endroits éclairés dans l'obscurité d'ici les Moulineaux et dans l'obscurité footballistique de l'Euro ce lundi. Chérif Guémour, bonjour Chérif.
Bonjour, bonsoir Hugo, bonsoir à tous.
C'est vrai qu'on peut se dire bonsoir plutôt que bonjour, bonsoir Patrick Juillard.
Bonsoir Hugo, bonsoir à toutes et à tous.
Un grand merci à d'autres braves, ceux du staff technique de notre émission. Ils œuvrent en coulisses, et pas qu'aujourd'hui. Pierrot Guérin, on le salue, et Mathieu De Gueldre à la réalisation. Radio Foot, la deuxième mi-temps, c'est parti. Allez, un petit point sur ce qui est en cours à Francfort, une ville de bourse, hein, me semble.
Et d'aéroport international.
Et d'aéroport, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agitation à Francfort, mais pas sur la pelouse du stade de foot. Actuellement 0-0 entre le Portugal et la Slovénie. On est à la 104e minute de jeu. Alors peut-être que ça va s'animer là, dans les instants qui viennent. On a des joueurs qui sont autour de l'arbitre dans la surface. Et je crois bien qu'un pénalty, j'ai l'impression qu'un pénalty est en tout cas en train d'être... Un possible pénalty est en train d'être vérifié. En tout cas, on est dans la première partie des prolongations à un petit peu voir ce qui se passe. Et je crois qu'il y a bien un pénalty pour le Portugal qui va donc être tiré par Cristiano Ronaldo. Avant que ça se fasse, on ne va pas exactement commenter en direct. Chérif Guémour, votre avis sur cette rencontre, sur ce Portugal qu'on attendait chaud bouillant et qui, jusqu'ici, jusqu'à ce pénalty, et le pénalty n'a pas encore été marqué, est tenu en échec par la Slovaquie.
La Slovénie. Il s'est passé ce que je redoutais au bout d'un quart d'heure de jeu, c'est-à-dire que le Portugal piétine face à une équipe tenace de Slovénie. Mais là, vraisemblablement, on a peut-être assisté au dénouement. Je vous laisse commenter, Hugo.
Alors, on va laisser le pénalty se tirer. On ne va pas commenter devant la télé. Simplement, c'est un duel. Il fut un temps où ces joueurs ont défendu deux clubs différents à Lisbonne, hein, au Portugal. Au Black, le portier slovène face à Ronaldo, formé au Sporting Lisbonne. Bon, avant l'heure d'au Black, qui vient d'arrêter le pénalty de Cristiano Ronaldo. C'est quand même un sacré événement. Toujours pas de but pour Cristiano Ronaldo dans cet Euro, qui n'aura toujours pas été le point fort de son équipe ce soir, et ça se confirme, mais c'est un tournant dans un match assez ennuyeux.
Qu'est-ce que je vous avais dit, et
assez ennuyeux, aussi malaisant dans ce qu'il montre de Cristiano Ronaldo et du Portugal, Patrick Juillard.
Oui, le Portugal qui a démarré avec des bonnes intentions, avec un jeu vertical, avec de la vitesse, des bons enchaînements, et petit à petit, ils se sont englués contre cette défense slovène bien regroupée. Il y a même eu des occasions intéressante en contre-attaque pour les Slovènes que Šeško a manqué à vendanger un petit peu par manque de justesse et par fatigue aussi puisqu'il est seul devant. Et là, ce pénalty raté, c'est-à-dire frappé, mais Oblak est parti du bon côté, a touché ce qu'il fallait le ballon pour que ça ne rentre pas, pour que ça soit détourné. Donc le Portugal qui est en train de s'enfoncer, ça tourne un peu à la mauvaise brandade pour le Portugal ce match.
Alors qu'il y a une autre main slovène, enfin... Une autre faute slovène dans la surface. Le ballon a touché le bras d'un joueur. Je ne sais pas si ça va donner pénalty. Ça a touché son genou avant. Donc, c'est quand même très, très. Il y a un manque d'intentionnalité qui est.
On a vu pire lors d'Allemagne-Danemark.
Voilà. Alors, le problème, c'est que les règles ont beaucoup évolué. La VAR a notamment changé beaucoup de choses concernant les mains. Bon, on va voir un petit peu comment ça se passe. Chérif Guémour, vous vouliez ajouter quelque chose?
Peu importe, on va aller à l'essentiel, c'est tout bon pour l'équipe de France. On voit cette équipe du Portugal qui est en train de s'épuiser, qui est en train de s'énerver et qui, je pense, ne s'attendait pas à aborder les prolongations, faire durer la soirée, et ça va être un peu dur pour la récupération. Il y a leur champion Cristiano Ronaldo qui est leur leader d'attaque, qui reste leur leader d'attaque, qui reste sur un échec.
Qui est défaillant, là.
Qui est défaillant. Et c'est tout bon pour l'équipe de France. Hein. On va évidemment en reparler.
Parce
mais...
que le vainqueur du soir sera l'adversaire de l'équipe de France qui s'est qualifié mi-temps dans les prolongations du côté donc, de Francfort, Portugal-Slovénie. Ronaldo en larmes, sanglots même, entouré par ses coéquipiers parce qu'il vient de rater un pénalty. Enfin, j'ai l'impression qu'il est en sanglots. En tout cas, il y avait des.
Il est
le visage rouge, en larmes. Bon, un grand garçon de 39 ans reste un garçon quelque part, un petit garçon dans son cœur, même quand on a tout gagné et tout fait comme lui.
En fait, sur ce début d'Euro, je trouvais que le Portugal avait réglé un petit peu le problème Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui avait tendance à trop aimanter le jeu et à trop polariser l'attention. Là, je trouve qu'il s'était fondu un peu dans le collectif et qu'il arrivait mieux à fonctionner avec ses partenaires. Et là, sur ce match, comme le Portugal a du mal, ça se crispe à nouveau autour de lui. Et là, le point d'orgue, là, c'est ce pénalty raté et le trop-plein émotionnel là, qui ressort et qui, à mon avis, ça ne va pas faire du bien à l'équipe. Et si j'étais Slovène, je commencerais sérieusement
à y croire,
pas forcément une victoire dans la prolongation, mais peut-être avec les tirs au but et un Oblak qui vient de prendre un net ascendant sur les tireurs portugais là, sur ce tir de Cristiano, ça peut sourire peut-être assez slovène.
En tout cas, c'est un sujet de débat, Cristiano Ronaldo, son âge, son importance peut-être trop grande, son aura trop forte par rapport à son talent qui est toujours énorme. Mais
ça inhibe un peu le collectif.
Il y a l'exil en Arabie Saoudite, donc il y a beaucoup de questions à son sujet. Et là, forcément, ses larmes vont peut-être nourrir d'autres interrogations quant à son statut et sa présence dans cette équipe du Portugal, qui n'est pas encore le prochain adversaire de l'équipe de France en quart de finale. Ce sera peut-être la Slovénie, on va suivre ça, la deuxième mi-temps des prolongations va bientôt débuter. Donc on peut parler de l'équipe dont on est sûr qu'elle sera à Hambourg vendredi soir, à savoir l'équipe de France.
Ça c'est bien, parce que ça c'est un peu moins bien. L'idée était bonne, moins la réalisation.
Toujours cette efficacité, cette précision devant le but qui manque. La tête de Marcus Thuram, malheureusement pas cadrée.
Tchouaméni qui tente sa chance,
malheureusement pas cadrée.
Oh, il s'en veut Marcus Thuram parce que son coup de tête passe à quelques centimètres.
Malheureusement pas cadré.
Et la frappe de Tchouaméni. Aïe, encore au-dessus de la transversale.
Malheureusement pas cadré. C'est bien ça.
Oh là là, encore une fois. Il a failli y aller tout seul. Kylian Mbappé, c'est au-dessus de la transversale.
Ouais, malheureusement pas cadré.
Frappe de Tchouaméni.
Toujours problème de précision. Malheureusement pas cadré.
C'est pas fini. Et toujours le cadre loin au-dessus. Et avec Tchouaméni, la parade enfin. Il doit s'employer. Castells face à une nouvelle tentative cadrée, cette fois-ci d'Aurélien Tchouaméni.
Get low, et oui, il fallait baisser la mire pour l'ajuster. C'était presque un sketch, comme l'indiquait la musique choisie, la première musique choisie par Mathieu De Gueldre dans son petit résumé. L'équipe de France qui a peut-être battu un record en matière de tir au pigeon dans le cadre d'un championnat d'Europe de football. Des frappes au-dessus, et pas grand-chose d'autre jusqu'à donc ce que cette fin de match et l'inspiration. Alors pas franchement génial, mais au moins c'était une inspiration. Kolo Muani qui frappe sur Vertonghen, qui a la bonne idée de nous aider. Ils sont toujours aussi sympas les Belges. Ils donnent un coup de main aux Français. Je dis nous, mais je vais sortir de mon habit de Français pour parler comme un journaliste. Cette France, elle a été moche. Elle a été chanceuse néanmoins. La France des champs, quoi, en un seul mot. Rien à voir avec la ruralité. Les Bleus sont en quart de finale de l'Euro néanmoins. Ils ont pour la énième fois joué un mauvais tour à leurs voisins. Ils ont pour la énième fois marqué autrement que dans le jeu. Dans leur campagne allemande, toujours pas de réalisation à la régulière pour la bande à Mbappé dans cet Euro. Deux CSC et un pénalty laissé CSC et les buts contre son camp, donc comme tout à l'heure. Mais le contrat est rempli, ils sont toujours en course dans cet Euro, ils sont en quart de finale. Est-ce que ça agace ou alors ça plaît à celui qui est aux premières loges pour les admirer? Le mot est très fort, à savoir évidemment la grande star Antoine Grenier, qu'on entend pousser quelques petits bruits comme ça dans son micro, mais il doit attendre que son jingle soit lancé pour parler.
Antoine Grenier,
live von der 2024 Euro in München. Danke.
C'est bon, Antoine, vous pouvez vous montrer. Bonsoir.
Bonsoir Hugo, bonsoir tout le monde.
Quelle chance d'avoir assisté à une nouvelle démonstration de l'équipe de France. France-Belgique, c'était une demi-finale en 2018 qui vous avait régalé du côté de Saint-Pétersbourg. C'était la Coupe du Monde et un été riche en émotions footballistiques. Pour l'instant, il y a toujours des émotions footballistiques, mais elles sont un peu plus contradictoires en ce qui vous concerne dans le suivi des Bleus. Les Bleus sont toujours là et toujours en lice pour être champion d'Europe, mais franchement, c'était de nouveau pas très sympa à regarder, pas très brillant tout à l'heure face à la Belgique. Kolo Muani, ou plutôt Vertonghen qui fait la différence en fin de match. Racontez-nous un peu tout ça.
Eh ben, écoutez, on a compté les occasions françaises qui se sont accumulées les unes après les autres, parce que mine de rien, ils ont dominé, les Bleus, ils se sont procurés des occasions face à une équipe belge qui s'était présentée très offensive, en tout cas sur le papier, parce que Tedesco, il avait aligné, le sélectionneur belge avait aligné une équipe avec, mine de rien, 5 attaquants, donc on en rêve, nous, du coup. Côté français, d'avoir 5 attaquants dans le 11 de départ au début d'un match, mais ça, tant que Deschamps sera là, on ne l'aura jamais. Ah non, mais les Français ont largement dominé. Marcus Thuram s'est procuré des occasions qu'il n'a pas cadré. Ça aussi, c'est quelque chose dont on commence à avoir un petit peu l'habitude. Aurélien Tchouaméni a tenté des frappes parce que on sait qu'il est bon dans les frappes de loin, sauf qu'il n'en a pas cadré une seule. Kylian Mbappé lui-même s'est offert un petit festival à l'entrée de la surface en début de deuxième période, et puis il s'est mis en position d'enrouler sa frappe, il l'a enroulée, elle est passée au-dessus. Et puis, mine de rien, aussi les Belges se sont créés quelques petites occasions par Lukaku ou De Bruyne. Et puis, au final, il y a cette rentrée de Randal Kolo Muani qui, pour une fois, a apporté un petit peu quelque chose à la place de Marcus Thuram, parce qu'il est très critiqué, Randal Kolo Muani. Mais là, il est rentré à l'heure de jeu, il a tout de suite imprimé un rythme un petit peu différent. Il est récompensé sur une frappe qui elle-même n'était pas cadrée, mais que Yann Vertonghen a eu la gentillesse de dévier dans les buts de son gardien. Voilà, le bilan pour l'équipe de France, c'est un but, un seul tir cadré en 20 tentative. Vous imaginez? Vous vous souvenez quand vous étiez à l'école et que vous aviez 1 sur 20? En général, c'est plutôt quelque chose qui vous valait un redoublement. Deschamps, il a un mot du dirlo et ça passe.
C'est une jolie métaphore. C'est vrai que Deschamps, c'est l'homme qui réussit de brillantes études, mais avec 11 sur 20 à chaque fois.
Ça suffit.
D'une certaine manière, parce que ça suffit.
Mention assez bien. Mais
voilà. Il valide son passage à l'étage supérieur, Shérif Guémour. Ouais. Admiratif de cette réussite presque irrationnelle ou un peu agacé de ne pas avoir un petit peu plus dans le jeu?
Non, c'est l'école Jacquet, le style Jacquet. Maintenant, on est habitué. C'est-à-dire, vous prenez 11 joueurs.
Aimé Jacquet, champion du monde, avec Deschamps comme capitaine en 98. Oui. Il y a des jeunes qui nous écoutent. Et là, c'est une histoire d'anciens combattants. Là.
Alors, vous prenez 9 joueurs travailleurs et vous laissez devant un numéro 9 qui traîne en pointe et puis une sorte d'électron libre. Ça suffit. Bon, l'électron libre, évidemment, c'est Mbappé et l'attaquant, c'est Thuram. Tout le reste, ça travaille bien, il faut le reconnaître. Même Thuram, à un moment, je regardais, j'étais comme vous, j'étais éberlué de la pauvreté du jeu. Mais par contre, cette équipe de France a détruit la Belgique. Il faut bien comprendre ça. C'est le béaba du style Deschamps. On détruit d'abord l'adversaire, on le contient, on l'empêche de jouer. des prises à 2, des prises à 3, des jaillissements qui ont parfaitement marché. On est bien d'accord hein, sur notre charnière centrale, notre défense. Koundé, ils ont été parfaits. Donc de ce côté-là, on a détruit l'adversaire. Reste plus qu'à porter les stockades. C'est long, c'est ennuyeux.
C'est laid.
Et ça finit par arriver. Donc voilà quoi. Alors celle-là, hein, ce France-Belgique du 1er juillet 2024, on le range sur l'étagère, une étagère qui est déjà pleine de ce genre de match, voilà, c'est ça. Et aussi longtemps que Deschamps restera, il y aura d'autres étagères.
Alors Patrick Juillard, le problème, c'est que là, l'analyse, elle est brillante, elle est footballistique, technico-tactique, si je puis dire. L'Euro, c'est aussi une compétition internationale grand public. Est-ce qu'on peut se satisfaire le spectateur occasionnel, là, il n'en a pas vraiment pour
moi,
son temps.
Moi, en fait, ce qui me surprend, ce n'est pas le style général, ce que Chérif a bien décrit. Je ne m'attendais pas à autre chose d'une équipe de Didier Deschamps. Mais quand ce style-là est couplé à des joueurs en forme physiquement, qui ont du mordant...
pas tellement, Patrick, on va en reparler.
Laissez-le développer.
Qui en veulent, ça donne ce qu'on a vu à la Coupe du Monde 2022 ou à la Coupe du Monde 2018, c'est-à-dire une équipe conquérante, une équipe réaliste, une équipe qui encaisse peu et qui marque beaucoup.
Donc une équipe plaisante à sa manière.
Une équipe qui au moins n'est pas frustrante pour le spectateur. Là, je trouve que les joueurs, voilà, ils sont complètement sur les rotules,
absolument,
ils sont cramés.
Absolument.
Un exemple anodin, mais qui en dit long, on a salué à juste titre les bonnes performances de Jules Koundé depuis le début de cet Euro, et en particulier aujourd'hui où il a été élu homme du match par le collège technique de l'UEFA.
C'est déjà un signe.
En début de match, vers la 20e minute, il fait un superbe dédoublement avec Griezmann côté droit. Il met un très bon centre et il n'y a personne dans la surface alors qu'il met le ballon dans une zone où les Belges ne pouvaient pas intervenir.
Mais
trop
c'est
loin
le centre
du
qui compte.
Mais
enfin.
Oui, mais il n'y a pas de... Normalement, il y a tellement
évidemment.
C'est une équipe, c'est une idée du jeu qui est basée sur le dépassement de fonction et l'investissement des joueurs. Là, ils ne peuvent pas. Et c'est pour ça qu'à chaque match, l'équipe de France marque sur des buts de raccro, sur des buts improbables.
Je vous laisse réagir juste après avoir entendu Antoine Grenier, donc qui a écouté vos analyses. Vous en pensez quoi, Antoine? Parce que vous étiez là en 2018, vous avez suivi d'autres campagnes, 2021, 2022, pour la France de Deschamps. Est-ce que vous êtes d'accord un petit peu avec ce comparatif? C'est la même chose, mais quand même un peu en moins bien, parce qu'il y a des paramètres là qui sont un peu moins maîtrisés, comme... la forme physique.
Oui, l'équipe de France de 2018 avait la possibilité par moment d'être spectaculaire. On se souvient, Hugo, vous l'avez commenté avec moi, de ce huitième de finale contre l'Argentine face à Kazan.
4 buts.
Où les Bleus avaient encaissé 3 fois, mais ils avaient marqué 4 fois aussi là. On se dit que face à une équipe qui leur marquerait 3 buts, on se demande vraiment s'ils seraient capables, même avec des boulevards, de réagir et de marquer 4 buts. Ils l'ont toujours pas fait d'ailleurs dans cet Euro. Et ils ne s'en remettent qu'à la générosité des autres. Ils ont commencé leur Euro à Düsseldorf sur un match moyen, remporté 1-0 face à l'Autriche avec un but contre son camp de Vauber. Ils reviennent à Düsseldorf pour gagner 1-0 après un match moyen contre son camp de Vertonghen. Donc au bout d'un moment, cette répétition des scénarios, elle est favorable aux Bleus, mais dès que le niveau va s'élever, dès qu'ils vont tomber sur une équipe qui sera athlétiquement un petit peu plus au point que ne l'étaient les Belges, qui ont manqué d'à peu près tout, qui ont manqué de jus, qui ont manqué de justesse, qui ont manqué vraiment de limite de vécu collectif, alors que c'est une équipe hyper expérimentée. Dès que le niveau va s'élever, ou face à une équipe qui en voudra un petit peu plus, les Bleus pourraient se retrouver en grande difficulté.
Alors on rappelle tout de même, effectivement, il y a eu 2 buts contre son camp sur les 3 inscrits par la France et un pénalty, donc ça fait toujours pas de but dans le jeu à proprement parler, inscrit proprement par un joueur de l'équipe de France tout seul comme un grand. Et puis, on peut aussi rappeler qu'il y a eu qu'un seul but encaissé. Donc, il y a aussi une solidité. Alors,
ça,
Antoine dit
hein.
Quand le niveau va s'élever, la tactique, les scénarios minimalistes ne vont pas pouvoir se répéter à l'infini. En même temps, elle n'est pas tant que ça en danger. Et au pire, quand elle est en danger, Mike Maignan, et on l'a encore vu tout à l'heure, est l'un des meilleurs portiers au moins de 7 euros, si ce n'est du monde.
Oui, parce qu'il ne faudrait pas croire non plus que la France passe grâce à la chance et sur l'injustice. Non, il y a une méthode éprouvée. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça que je parlais de jaquette tout à l'heure. C'est que maintenant, il y a un style français. Évidemment, on préfère avoir un style espagnol ou néerlandais, voire même allemand. C'est pas ça. On est létal. Et il n'y a pas d'injustice à ça. On n'a pas volé les Belges aujourd'hui. Là, ils ne pourront plus parler de somme. Ils ont été battus à la régulière.
Ils n'ont pas joué de toute façon.
Bah, déjà, mais parce qu'on les a étouffés.
Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes.
Bah, déjà, mais parce qu'on déjà, on les a étouffés, on les a brisés, on les a détruits. Ça, c'est comment ça s'appelle, c'est le béaba.
Ce sont des métaphores et c'est purement footballistique.
C'est purement footballistique. Voilà, c'est ça.
On va apaiser le climat.
Surtout que ce sont deux pays amis, hein, contrairement à ce que disent certains médias qui racontent n'importe quoi.
Quand je parle de destruction du jeu, évidemment, ça fait un vocabulaire un peu guerrier, mais on est bien dans, comment ça s'appelle, dans annihiler les intentions de l'adversaire.
Voilà, exactement. On va dire ça comme ça. La guerre sans la guerre. Hein.
Mais maintenant, pour en revenir à la fatigue, et là, je rejoins Patrick et je rejoins un peu cette apathie, c'est. Analysons les frappes, les fameuses frappes.
On a frappé 15 fois maintenant.
Mais pourquoi elles sont atroces?
Parce qu'elles ne sont pas en forme.
Et voilà, parce qu'en fait, il n'y a ni la précision et ni la puissance. Ils ont tiré fort, mais en fait, non, ce n'est pas ça la puissance. La puissance, rappelez-vous, c'est le but de Tchouaméni contre l'Angleterre. Ça, c'est précis, c'est puissant.
Ça, c'est quart de finale de la dernière Coupe du Monde.
Voilà, c'est précis et puissant. Parce que
parce
les joueurs sont en
gaz,
forme, et il y a du gaz. Voilà. Et là, ne croyez pas que les Français ont tiré puissamment. Non, ils ont tiré fort. Il y a beaucoup de frappes molles. Les frappes de Griezmann sont molles depuis le début. Vous comprenez?
Ce que les supporters appellent des frappes de vieille, hein, pour dire les choses.
Ou alors des femmes enceintes. Putain, voilà, attends, ça, c'est un peu...
Mais c'est révélateur.
Ça, c'est un peu...
Parce qu'on a vraiment...
Ça appartient au passé, tout ça.
Voilà, on a vraiment tiré au but. Ça, c'est une bonne chose. Et quelque part, ça veut dire qu'on est allé dans le camp de l'adversaire et qu'on s'est procuré des situations de tir. Ça, c'est très bien. Mais on n'a pas la puissance ni la précision. Donc voilà, c'est
et
un
puis,
signe.
Surtout, j'ai trouvé que les deux équipes étaient un peu le deux miroirs. C'est-à-dire que dans les deux équipes, le leader technique supposé, d'un côté Griezmann, de l'autre De Bruyne, et en dessous de son niveau moyen et de son niveau habituel...
Sont cramés.
Il n'est pas le leader attendu, hein, clairement, dans la production, dans l'inspiration. Le meilleur buteur des deux côtés, que ce soit Mbappé ou Lukaku... on est loin du compte là aussi. Par malchance, les deux ont subi des revers, ceux de l'avare pour Lukaku et ceux de cette blessure et ce nez cassé pour Mbappé. Donc ça n'aide pas. Et au final, qu'est-ce qui reste? Un bon gardien de chaque côté et un peu plus de chance et un peu plus d'envie quand même, parce que la France, c'est vrai, a essayé de jouer un minimum, même si c'était souvent pas abouti. Et une Belgique qui a subi les événements, tout simplement. Et c'est un triste huitième de finale. Moi, j'ai rarement vu un huitième de finale, toute équipe et tout Euro confondu, aussi médiocre que ça, techniquement, que ce qu'on a vu, surtout entre deux équipes où on est censé avoir des joueurs de Ligue des Champions dans toutes les lignes.
Vous avez bien fait de faire le voyage, paradoxalement, Antoine Grenier.
On avait critiqué la défense belge en disant « la Belgique est faible derrière ». Je trouve que... À part Vertonghen et son malheureux contre, ils ont plutôt assuré défensivement les Belges.
En tout cas, ils n'ont pas paniqué, ils n'ont pas fait de faute.
Ça a quand même fait plaisir à Didier Deschamps, hein, qui était vraiment... il donnait l'impression d'avoir gagné déjà l'Euro, voire la Coupe du Monde et l'Euro en même temps.
Mais avec ce qui se passe ce soir, il n'y a pas tort. Hein.
Il était très, très, très heureux. Et ce qui se passe ce soir, c'est Portugal-Slovénie 0-0 dans le temps additionnel des prolongations. Ça veut dire qu'on s'achemine vers les tirs au but. Didier Deschamps, Antoine Grenier... son animation offensive, mais ça c'est pas nouveau, elle est pas extraordinaire et c'est particulièrement fort sur cette Euro, et on peut pas dire qu'il ait très envie de montrer un peu plus d'audace que d'habitude, avec notamment des joueurs offensifs qui ne sont pas rentrés après avoir été dégradés comme Dembélé, soit d'autres dont on se demande bien ce qu'ils font là, comme Giroud ou Kingsley Coman. Il y a un peu des interrogations sur sa gestion de groupe, d'effectifs et de coaching.
Il va finir par y en avoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est adapté à son groupe. Il faut lire le changement tactique qu'il a effectué en passant à trois milieux défensifs, N'Golo Kanté, Tchouaméni et Adrien Rabiot. Ça, il faut le lire, certainement. Au-delà du conservatisme et du travail défensif permanent qu'il impose à ses équipes, il faut sûrement le lire aussi comme une adaptation à l'état de forme C'est-à-dire, on blinde derrière, on met des joueurs en premier rideau, parce que Mbappé va pas défendre, mais on met trois rideaux de fer pour éviter que les adversaires ne passent. Donc, Deschamps, c'est mine de rien adapté au fait que ces joueurs étaient pas en forme. La vraie question, et j'en reviens à votre question sur la gestion de groupe, Deschamps, de toute façon, à partir de la phase de poule, une fois qu'il a à peu près son 11 de départ en tête, les remplaçants n'existent plus trop dans sa gestion. Il va beaucoup se concentrer sur ses titulaires. Et là, dans le cas précis, la vraie question qui va se poser, ça va être maintenant qu'il a, on va pas peut-être pas parler de match référence, mais que il a son match solide face à la Belgique. Vous voyez que dans ce match-là, il n'a pas changé ni Rabiot, ni Tchouaméni, ni Kanté. Alors que Kanté, ça va faire 4 matchs qui courent partout, que Tchouaméni, mine de rien, il revient de blessure, et que Rabiot n'est pas forcément hyper convaincant.
Il n'a fait qu'un seul changement.
Et en plus, il sera suspendu
Rabiot
au prochain
suspendu,
match. Exactement.
Oui,
pour accumulation de cartons. Donc, la vraie question, c'est est-ce que Deschamps compte jouer avec seulement un seul remplacement par match, ce qui fait quand même pas beaucoup pour espérer aller jusqu'en finale, surtout quand on a des joueurs qui sont déjà fatigués, ou alors est-ce que il va essayer de réfléchir un petit peu différemment? Ce qui est sûr, c'est que vu leur apport depuis le début de la compétition, vu son apport depuis le début de la compétition, Ousmane Dembélé peut s'inquiéter, parce que Deschamps a titularisé Griezmann sur le côté droit, et même si Griezmann n'est pas forcément en forme, lui au moins se recentre et peut apporte un petit peu dans le centre du jeu. Donc Deschamps tient vraisemblablement son 11 type, et les remplaçants, ceux qui étaient remplaçants aujourd'hui et qui ne sont pas rentrés, peuvent s'inquiéter.
Dernier mot sur le dernier tour de table sur l'équipe de France.
Je vais mettre un bémol. On a quand même un peu de réserve devant avec Colomani qui est rentré, qui a marqué, mine de rien.
Barcola.
Oui, j'y arrive. Ah ouais. J'y arrive. Barcola et Dembélé, qui pour moi est un
grand joueur. Voilà,
c'est ça. Après, milieu de terrain, on a Fofana, Kamavinga. Et n'oubliez pas la finale Coupe du Monde contre l'Argentine. Au niveau du coaching, tous les joueurs qui sont rentrés ont fait la différence. Donc, il y a aussi un esprit de groupe. Deschamps en parle souvent. Ça, on ne peut pas le lui enlever. Et y compris des joueurs qui ne sont pas rentrés. Je pense à Fofana, par exemple. Ils doivent se tenir prêts à n'importe quel moment. Et en 2022, en finale, je rappelle, ça fait ses preuves.
Allez,
la France a de la réserve.
Un dernier mot sur la gestion de l'effectif. Patrick Juillet, on dira au revoir à Antoine Grenier.
On va voir si Deschamps a trouvé son 11 type, mais la suspension de Rabiot va encore le pousser, l'obliger à faire des changements dans son 11 de départ lors du prochain tour. Et puis moi, je ne suis pas certain que Thuram, par exemple, ait définitivement gagné sa place, même si collectivement, il fait du travail utile. Pour moi, c'est un joueur de 4-4-2 et seul en pointe. Pour moi, ça, comme on dit, ça ne le fait pas.
Il a bien travaillé aujourd'hui.
Antoine Grenier, il y a quelques années, vous étiez allé sur les traces des Beatles à Liverpool, sur les traces des Beatles à Londres, en ma compagnie, pour le dénouement du dernier Euro. Et là, ce sera sur les traces des Beatles, au moment où ils ont commencé à être les Beatles, à Hambourg, pour le quart de finale de l'équipe de France. Donc ce sera vendredi soir, soit face au Portugal, soit face à la Slovénie.
Au
Star Club, voilà, de Hambourg. Vous irez prendre des photos en attendant la séance de tir au but à commencer du côté de Francfort. Et la Slovénie vient de rater sa première tentative. On va voir ce que vont faire les Portugais. Et on vous dit à bientôt, Antoine Grenier.
À bientôt, Hugo. À bientôt, tout le monde.
Allez, et compensez les auditeurs, nos chers et fidèles auditeurs, du rendement de l'équipe de France, alors que Cristiano Ronaldo s'apprête à tirer son tir au but, lui qui a raté un pénalty en prolongation. Cette fois, il ne se rate pas et le Portugal mène 1-0 dans la séance fatidique. Les auditeurs de RFI, de Radio Foot, sur la qualification de l'équipe de France face à la Belgique un peu plus tôt dans la journée.
Suite à la victoire de l'équipe de France face à l'équipe de la Belgique, je crois que cette victoire, elle est méritée. Sur l'ensemble des deux premières mi-temps, la France a joué.
C'est Hosanna depuis Bémoto au sud du Tchad. Je crois que la France ne mérite pas cette victoire. Sinon, comment comprendre qu'une grande équipe comme la France arrive à avoir un but qui est marqué contre son camp? Je crois que pour moi, c'est très décevant. Mais c'est ça la loi du jeu.
Moi, c'est Jordan de Bangui, capitale de la République centrafricaine. L'histoire a montré dernièrement que les Bleus se sont toujours défaits des Diables Rouges lors des dernières confrontations. Aurélien, Eduardo, Ferland et Kylian, je veux vous voir aller loin. Madrid, un jour, Madrid, toujours.
J'ai souvenu depuis Kinshasa RDC, j'étais à féliciter l'équipe nationale française pour sa qualification au détriment de la Belgique. Mention spéciale à Jules Koundé pour ses prestations plus que convaincantes depuis le début de l'Euro. Je pense qu'il a répondu présent et il est parmi les rares joueurs de l'équipe de France à être à la hauteur des exigences.
Et l'équipe de France pourrait bien... retrouver un certain Portugal en quart de finale. Je ne dis pas que c'est déjà fait, mais la Slovénie vient de rater ses deux premiers tirs au but dans la séance et le Portugal vient de réussir sa deuxième tentative après Ronaldo. Bruno Fernandes, Cheryl Guémour, ça sent bon le Portugal, mais le Portugal un peu fatigué pour les Bleus vendredi soir à Hambourg.
Oui, je pense qu'ils ont laissé beaucoup de gomme, beaucoup d'énergie, mais là ils sont en train de se ressaisir avec un gardien extraordinaire qui vient d'arrêter... fort belle manière, les deux premiers tirs au but slovènes.
Patrick Juillard, vous sentez que là, ouais, c'est bon, le Portugal a enfin fait la différence dans ce match, un peu tardivement, mais...
Comme quoi, les tirs au but et le temps réglementaire sont deux mondes différents, puisque Oblak avait arrêté le pénalty de Ronaldo pendant le temps réglementaire, pendant la prolongation, donc... L'ascendant, finalement, contrairement à ce que je disais, n'a pas joué. Il vient de rater
un troisième. Voilà. Son troisième tir au but. Donc, c'est fini, une prochaine réussite portugaise. Et la messe serait dite à Francfort dans le huitième de finale entre le Portugal et la Slovénie. On va revenir sur d'autres huitièmes de finale qui paraissent déjà bien loin dans notre mémoire, dans nos esprits. Ceux de samedi, me semble-t-il, et notamment la qualification de l'Angleterre. Non, c'était hier, c'était dimanche, la qualification
hier soir
de l'Angleterre, exactement, face à la Slovaquie.
Walker again, winds himself up. Here's the throw, flat to the near post, flicked on, overhead.
C'est bon pour le Portugal. Bernardo Silva envoie les Portugais en quart de finale de l'Euro. 3-0 dans la séance des tirs au but. 0-0 à l'issue du temps réglementaire. Le Portugal face à la France en quart de finale de l'Euro vendredi soir. On va parler d'un autre favori, une autre grosse nation européenne. L'Angleterre, à défaut de monter vraiment en puissance dans son Euro, elle est montée en puissance in extremis dans son huitième contre la Slovaquie. C'était donc hier dimanche. Mené 1-0 à partir de la 25e, les Trois Lions ont égalisé dans le temps additionnel avant de prendre l'avantage au début de la prolongation. Merci aux stars Kane et surtout Jude Bellingham. Hey Jude, il porte son pays sur ses épaules. Néanmoins, on a l'impression que l'Angleterre, c'est comme le Portugal, c'est comme la France, peut mieux faire, Patrick Juillard.
Je pense que c'est pire que le Portugal et pas loin d'être pire que la France par rapport au niveau supposé de cette équipe. Oui, ils ont marqué un vrai but. Bon, le deuxième, c'est en prolongation, on compte pas. Non, je plaisante, mais, l'Angleterre, effectivement, vous avez raison, a été sauvée par ses stars parce que, mis à part... peut-être Declan Rice, parmi les autres joueurs, aucun n'a été à son niveau. Et je trouve que la défense, la charnière centrale Gay Stones, c'est vraiment pas au niveau de ce qu'on peut espérer de l'Angleterre, qui est supposée être un favori, qui était peut-être avec la France la meilleure équipe européenne lors de la dernière Coupe du Monde. Cette charnière centrale, moi, elle ne me rassure pas du tout. Ça a permis à l'inconnu Ivan Schrantz, joueur du Slavia Prague et co-meilleur buteur de l'Euro, de briller encore. Hein. On n'en parle pas beaucoup, on parle de Miko Tadze ou Moussiala, mais il ne faut pas oublier Schrantz, hein, qui est une sorte de petite révélation. Et moi, cette équipe anglaise, moi, ça, je ne suis pas convaincu du tout. Ça joue par à-coup, ça joue sur les fulgurances, les inspirations des stars.
Ouais.
Il y a une volonté quand même, il y a une certaine solidarité, c'est-à-dire il y a un certain esprit d'équipe, mais... les niveaux des performances individuelles sont très loin globalement de ce qu'on peut attendre de ces joueurs-là. Quoi. Donc,
alors c'est vrai que ça ressemble quand même.
Elle n'a pas de marge cette équipe.
Bon, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a dit effectivement sur le Portugal et la France. Donc finalement, on a envie de dire qu'on n'a pas tellement à s'inquiéter pour ces trois Lions puisque sont plutôt dans la moyenne des bonnes équipes de cette Euro en termes de performance.
On est moins
bien
que l'Espagne et l'Allemagne. Quoi.
Paradoxalement, évidemment, cette Angleterre est décevante, on est bien d'accord là-dessus. Ils ont frôlé le scénario catastrophe. On voyait évidemment l'élimination, la démission de Southgate dans la foulée. Très bien. Paradoxalement, ce qui m'a impressionné dans cette équipe d'Angleterre, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont retrouvé les vertus profondément anglaises de combat et de compétition qui parfois se sont estompées au profit justement de l'apport des techniciens étrangers qui sont venus en Première Ligue ces dernières années et qui ont formaté un peu le jeu anglais, c'est-à-dire du jeu à terre, de redoublement, très tactique et tout ça. Ça a été une très bonne chose, ça a fait progresser le football anglais. Mais j'avais l'impression que ces dernières années, le football anglais avait un peu perdu de son âme qui avait fait sa force, c'est-à-dire une fois de plus, l'esprit de combat et l'esprit de compétition. Et dans les dernières minutes, j'ai retrouvé ça et ça a été fulgurant. Ça a duré le temps de la fin de match avec le but de Bellingham et le tout début de la prolongation où là, les Anglais, j'ai l'impression qu'ils avaient retrouvé ce qu'on pourrait appeler le fighting spirit, appelez ça comme vous voulez, mais les profondes vertus anglaises. Et c'est peut-être bon signe pour la suite.
Une
mais pour l'instant.
Une forme de parenthèse enchantée, en fait.
Voilà. Mais c'est décevant. On est bien d'accord, on est bien d'accord là-dessus. Alors c'est d'une pauvreté et c'est inquiétant
vous
derrière.
Vous convoquez une histoire anglaise qui n'existe pas vraiment, hein, parce que finalement, c'est quand même avec Southgate et son jeu peut-être un petit peu ennuyeux.
Mais c'est les joueurs.
Qu'elle réalise sur la durée les meilleures performances, pas de son histoire, mais pratiquement cette équipe d'Angleterre. Le Fighting Spirit n'a jamais mené les trois Lions très loin.
C'est pas
une sélection qui va très loin globalement. Donc
non, mais les joueurs se sont pris en main, ils se sont libérés peut-être des schémas classiques, des compositions, du coaching et tout ça.
Je pense que c'est la peur de mourir aussi. C'est-à-dire qu'ils étaient à une minute d'être éliminés par la Slovaquie.
Ouais.
Ce qui aurait quand même été une.
Alors, ce qu'il y a du bon peut-être.
Une humiliation historique
c'est très
pour
anglais.
L'Angleterre.
C'est très
Est-ce
anglais.
Qu'il y a quelque chose de bon peut-être à puiser justement.
Oui, bien sûr qu'il y a quelque chose de bon. Puisque
le match référence, ils l'ont. Le match référence,
parce que
les Anglais, ils l'ont.
Ils l'ont parce qu'ils ont gagné avec des buts qu'ils sont allés chercher, avec des buts dans le jeu où ils ont montrer des qualités, du
par
talent.
Par leur leader, en plus.
C'est pas une frappe contrée deux fois et détournée par la fesse d'un défenseur, là, le but. C'est vrai but, quoi.
Et c'est Bellingham et c'est Kane. Moi, si je suis un joueur anglais, je vais à l'entraînement. Enfin, quand j'entre sur le terrain, je regarde Kane et Bellingham, je me dis, ouais, eux, ils vont nous sauver.
Imaginez,
la
France aurait battu la Belgique avec un but de Mbappé et un but de Griezmann dans les 10 dernières
minutes.
Donc
là, leur avantage compétitif, il est un peu là, peut-être. C'est que leurs stars répondent un peu
au
plus
moins,
présents.
Au moins, les stars ont joué leur rôle de leader et elles sont. Je trouve que, par exemple, Bellingham, sur 7 euros, est plus en forme que, par exemple, Griezmann
ou
Mbappé.
Il est cramé aussi.
Oui, mais je trouve qu'il montre quand même un peu plus de jus et de gaz que ces deux joueurs que j'ai cités.
Il est plus jeune,
et pour les trois Lions, la prochaine étape, ce sera la Suisse en quart de finale ce samedi. Et ce sera un retour dans la funeste pelouse, en tout cas pour
grand
le
match.
Spectacle français.
Grand match.
Funeste pelouse de Düsseldorf. Est-ce que ce sera un grand match? On va voir. En tout cas, la Suisse a éliminé l'Italie. Et là, c'était bien samedi.
Vargas, Freuler, à gauche. Magnifique 1-0 la Suisse. 1-0 Freuler. Mille fois mérité, mesdames, messieurs. La Suisse ouvre le score contre l'Italie. Vargas, le tir. Rouben Vargas, première minute de la deuxième mi-temps. On ne jouait pas depuis 30 secondes.
La Suisse a sorti l'Italie, l'Italie tenante du titre, l'Italie aussi absente des deux dernières Coupes du Monde et je pense que c'est un peu cette Italie-là, beaucoup trop faible, qu'on a vu samedi face à une Nati plutôt convaincante qui a réalisé une bonne première partie de compétition, qui a notamment tenu en échec l'Allemagne. En Allemagne, ce n'est jamais rien et qui a donc éliminé sans contestation possible l'Italie.
Qui a surclassé l'Italie, on peut le dire.
Ça, c'est pas quelque chose qu'on aurait pu parier il y a encore quelques années et ça paraît tellement logique au vu de ce que montre la Suisse dans cet Euro et au vu de ce qu'elle a montré ces dernières années dans les tournois internationaux dans lesquels elle est régulièrement présente. Et puis on rappelle qu'elle avait sorti après tout l'équipe de France il y a 3 ans.
Je crois que c'est le 6e tournoi majeur qu'elle dispute, elle n'en rate plus un. Et c'est une équipe qui a vraiment maintenant des certitudes. Et le point de bascule, c'est peut-être l'Euro 2021, lorsque la Suisse élimine l'équipe de France après ce match poursuite extraordinaire. Là, j'ai particulièrement apprécié aussi l'émulation qui règne dans le groupe, parce que c'est pas toujours les mêmes 11. Le schéma est à peu près identique, mais on peut changer un ou deux joueurs. Et il y a une bonne émulation. Par exemple, Vargas, là, était l'homme du match. Une passe décisive, un but. Sa frappe est magnifique. Le premier but est pas mal aussi avec enchaînement pied droit, pied gauche très rapide de Freuler. Donc,
comme contre l'Allemagne.
C'est vraiment, je trouve, une équipe qui est complète, quoi, qui défend bien, qui est cohérente, qui est équilibrée. Et je pense qu'ils peuvent être la surprise de l'Euro.
Avec du talent, notamment devant Mbolo Ndoye, et puis de la très grosse expérience, hein, due notamment à ses participations successives. On pense au Rodriguez, au Sommer dans les buts, on pense à Xhaka. Donc il y a vraiment quelque chose de... un cocktail comme ça qui laisse confiant pour la Suisse, même s'il y a l'Angleterre qui arrive, Chérif Guémour.
Rappelez-vous, quand la France a éliminé l'Italie à la Coupe du Monde 1998, les Italiens horrifiés avaient dit « Mon Dieu, nous avons créé un monstre » en référence à tous les joueurs français qui jouent en Serie A. Et là, le milieu de terrain, c'est du pur Bologne, avec Freuler, Ndoye et Ebischer. Donc pareil, l'Italie a créé un monstre en permettant à ses joueurs suisses de briller, notamment au milieu de terrain. C'est ce qui fait quand même un peu la force de cette équipe de Suisse. Sinon, pour en revenir à l'équipe d'Italie, il ne faut pas se tromper, c'est une équipe qui est en reconstruction, à mon sens. Elle est sur la bonne voie, mais elle manque de talent. Et n'oubliez jamais que cette équipe d'Italie, ce ne sont pas des grandes individualités, mais des joueurs de complément. Barella est un joueur extraordinaire, mais c'est le complément de Çalhanoğlu et de Mkhitaryan à l'Inter. Ce n'est pas le meneur de jeu, ce n'est pas lui qui fait le jeu. Et il ne faut pas lui demander en équipe d'Italie ce qu'il ne fait pas avec l'Inter de Milan. Mais à mon sens, l'Italie est sur la bonne voie. C'est cyclique, ça doit
s'arrêter. Ce qui est certain, c'est que le niveau est quand même très loin de l'équipe de 98 qui avait créé le monstre de l'équipe de France et très loin de beaucoup de bonnes équipes et même très loin de 2021.
Exactement. Ouais. Mais là, sur ce match précis, l'Italie a aussi pâti de l'absence pour suspension de Calafiori
Calafiori, évidemment.
Qui faisait quand même une bonne charnière.
Bologne également.
Comme quoi, on peut prendre des bons joueurs dans des clubs qui ne sont pas des top clubs.
Non, mais qui vont disputer la Ligue des Champions.
Oui. Et l'absence de Calafiori, la défense reconstituée, Bastoni un peu livré à lui-même, ça n'a pas du tout fonctionné. Ça a contribué à tirer l'Italie vers le fond, en quelque sorte.
Absolument.
Allez, un coup d'œil sur les derniers huitièmes de finale de l'Euro 2024. Demain, à suivre, 16h temps universel, Roumanie, Pays-Bas, suivi d'Autriche, Turquie. Pas forcément la journée qui offre les affiches les plus alléchantes sur le papier.
Match.
Mais voilà, étant donné qu'on a eu un spectacle assez pauvre avec France, Belgique et Portugal aujourd'hui, peut-être qu'il vaut mieux voir de l'outsider, pour le mot anglais, demain, et notamment ce match entre la Roumanie et les Pays-Bas, qui a tout de la bonne surprise, parce que la Roumanie est un revenant assez sympa. Les Pays-Bas ont eu une phase de poule, Chérif Guémour, vous les connaissez très bien, pas forcément extraordinaire, mais... peut-être qu'on peut attendre aussi de bonnes choses de la part de la bande à Ronald Koeman.
Oui, alors de toute façon, ils nous doivent une revanche parce que le premier tour a été indigne d'eux. Ils se sont reniés, ils ont tourné le dos à leur culture, notamment contre l'équipe de France où ils ont joué derrière, ce qui n'est pas du tout hollandais. Ce n'est pas du tout ça. Ils vont affronter une équipe de Roumanie qui est l'une des équipes qui m'a le plus plu. OK, ce n'est pas une grande équipe, il n'y a pas des grandes individualités. Ils savent très bien manier le ballon. Ça peut faire un très beau match. Voilà, c'est en tout cas, les Néerlandais nous doivent une belle revanche.
Est-ce qu'ils ont les arguments pour cette belle revanche? On rappelle, c'est quand même une équipe qui est arrivée diminuée à l'Euro sans De Jong.
S'ils se contentent de perpétuer leur jeu habituel, ils vont faire des belles choses. Notamment comme il avait fait contre la Pologne, c'est-à-dire qu'ils étaient menés 1-0. Et après, ils ont fait feu de tout bois, ils ont marqué 2 buts et ils ont eu des supers occasions. En tout cas, ils n'ont pas intérêt à calculer face à cette équipe de Roumanie qui sait punir les équipes attentistes. Et ils l'ont prouvé.
Roumanie-Pays-Bas, Patrick Juillard, vous voyez.
Moi, je trouve que par séquence, uniquement par séquence, les Pays-Bas ont pu être séduisants lors du premier tour.
Je suis d'accord.
Et je trouve que le match contre l'Autriche est un match un peu sous-coté. Pour moi, C'est un des plus beaux matchs de cette Euro.
Donc le troisième match de poule pour, ouais, pour les deux équipes.
Mais en France, il était un petit peu
éclipsé
par celui des Bleus. Ouais. Mais donc je pense qu'on peut attendre de belles choses de ce match.
Y compris de l'Autriche, hein, Patrick. Hein.
Alors, mais là, je parlais de Roumanie.
Oui, mais alors, justement, passons à l'Autriche. L'Autriche-Turquie.
Également, moi, je trouve que c'est une équipe un peu comme la Suisse. Équilibré, très structuré. On reconnaît la patte de Rangnick, qui est un mastermind, un peu un cerveau du football. Et c'est aussi une équipe qui est à la hauteur de ce qu'on attendait d'elle. C'est-à-dire, certains doutaient un peu, disaient l'Autriche se voit peut-être un peu trop belle après les éliminatoires. Ben non, l'Autriche est pour l'instant au niveau de ce qu'elle avait annoncé,
ouais,
comme un outsider possible. Donc j'attends aussi pas mal, et c'est un match qui sera un derby des tribunes, puisque Autriche-Turquie en Allemagne, ça va être bouillant au niveau du public, des supporters. Donc je pense que ça peut être une belle ambiance.
Sur des pays
ils
très
sont
proches,
presque à domicile, tous les deux.
Culturellement, ce sera un beau duel alors d'outsider. Je ne sais pas trop quel serait l'équivalent français pour éviter d'utiliser ce mot. Anglais, voilà pour l'Euro. Il nous reste quelques minutes peut-être pour parler de l'autre compétition continentale du moment. Chérif Guémour dans Radio Foot International, la Copa América. Revenir peut-être, avant de parler des affiches du soir, on a un petit peu de temps, elles ne sont pas forcément extraordinaires, mais ce week-end, on a eu le 3-3 des champions du monde, les Argentins de Messi qui déroulent. Et puis dans une autre poule, l'élimination un peu surprise du Mexique. Au profit de la Bolivie et du Venezuela. Ça, c'est pas forcément logique sur le papier.
Venezuela et Équateur.
De prime abord, Venezuela et Équateur, excusez-moi.
Eh bien, il y a le Venezuela qui a surpris son monde justement en gagnant ces trois matchs. Alors, ça a commencé tout de suite en battant l'Équateur. Ça a été une surprise. On a cru que c'était un malentendu.
Un faux de paille.
Ouais, et finalement, en plus, j'ai vu cette équipe du Venezuela. Elle est létale, elle porte le danger très très rapidement. Et il y a eu ce fameux match contre le Mexique, où a priori le Mexique était favori. N'oublions pas que la plupart des matchs se jouent dans le sud des États-Unis, c'est-à-dire proche du Mexique, dans les États qui sont très très latinos. Hein. Et le Mexique s'est fait surprendre. Alors ils se sont retrouvés à jouer à 10 contre cette équipe du Venezuela qui leur a porté les stockades. Ils se sont mis en difficulté. Et avec son dernier match contre l'Équateur, ils ont fait 0-0. Voilà,
vous avez bien travaillé, vous avez bien cherché. Bon, le Mexique, en tout cas, qui va devoir cravacher. Hein,
grosse déception.
Il n'y a pas que les États-Unis, donc pays de la Copa América, qui accueille la prochaine Coupe du Monde. Il y a aussi, vous l'avez dit, le Mexique. Bon,
grosse désillusion.
L'Argentine qui déroule. C'est la lancée de 2022 et du sacre mondial.
Cette Argentine est habitée. C'est exactement la même équipe que vous avez vue à la Coupe du Monde 2022. Ça n'a pas changé. C'est les mêmes. C'est un peu plus poussif, mais ils sont là pour gagner la Copa América. Ils l'ont annoncé. Un Messi très, 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 très correct, malgré le fait qu'il joue à Miami. Et quand Messi n'est pas là, c'était le cas lors du troisième match, on a un Lautaro, 4 buts en 3 matchs. Voilà. Et puis pour le reste, c'est du 100% argentin, tel qu'on les connaît. Ils sont là pour gagner la Copa América. Ils ne sont pas là pour faire du tourisme. Je vous garantis que.
C'est vrai que Messi, il est à domicile aux États-Unis. Merci, Chérif Guémour. Merci, Patrick Juillard. Ce point Copa América, il vous fera gagner des points auprès de l'atelier Annie Gasnier qui revient demain dans Radio Foot International. Merci, Mathieu De Gueldre et Pierrot Guérin qui ont veillé tard pour vous offrir deux Radio Foot aujourd'hui. Excellente soirée à l'écoute de RFI.